Chapitre 11. Les fines parties, ils ne furent plus que trois dans l'atelier du forgeron fermé par un drap. Holmes, le grand type au gros couteau, et l'odeur corporelle du grand type. Holmes demeura silencieux, l'homme au couteau le dévisagea sans mot dire, et la puanteur parla pour elle. Moins de 10 minutes plus tard, les fines revinrent, accompagnées de deux hommes bien habillés. L'un, grand et mince, arborait l'ombre d'une fine moustache au-dessus de ses lèvres parfaitement dessinées. Il avait les cheveux très noirs et cette peau pâle, presque translucide, qui aurait presque nécessité un deuxième rasage en ce début d'après-midi. Pour le reste, il avait une allure impeccable. Aucune trace de boue ne souillait ses chaussures vernies, ni ses guêtres blanches. Il était si bien mis qu'il aurait pu rejoindre le flot des employés de Wall Street, ou, plus près d'ici, le défilé annuel de Pâques dans Kay Street, sans avoir l'air déplacé. Si l'autre, plus petit et plus corpulent, portait des vêtements coûteux, il présentait trop d'aspect vulgaire pour ne pas détonner au milieu de vrais gentlemen. Il arborait une dent en or assortie au fil doré de son gilet brodé. La crosse d'un pistolet double action, à moitié enfoncée dans son pantalon d'une propreté singulière compte tenu de la boue dans Casey's Alley, apparaissait au-dessus de ce gilet. Un homburg en feutre marron tout neuf était perché sur ses cheveux noirs lissés en arrière par de la pommade. Il souriait.
« Bon Dieu, Mortrick, quelle puanteur là-dedans »
s'exclama-t-il.
« On est presque en avril. Tu n'as pas encore pris ton bain annuel ?»
D'un geste de la main, il ordonna aux fines de sortir du petit atelier et Holmes entendit le bruit des bottes des frères dans la boue. Le grand homme mince s'adossa à un comptoir, non sans l'avoir épousté au préalable avec un mouchoir, et observa la scène sans ouvrir la bouche. L'autre tendit une main calleuse.
« Howard Culpepper !»
annonça-t-il d'une voix de baryton. Holmes lui serra la main. Si le bonhomme était Culpepper, l'autre, plus jeune et silencieux, devait être Monsieur J., manifestement le plus important des cinq voleurs. Celui que Culpepper avait appelé Mortrick n'avait pas arrêté de tapoter le manche de son énorme couteau. Holmes s'estima chanceux que son premier réel contact à Washington soit ce Culpepper. D'après son accoutrement voyant et son assurance, il était peut-être suffisamment haut placé dans l'organisation criminelle de la ville pour répondre à ses questions. Si on savait l'y encourager, Holmes doutait beaucoup que Monsieur J soit assez stupide pour donner des noms ou de quelconques informations utiles.
« Et vous êtes ?»
demanda Culpepper.
« Henry Baskers, » répondit Holmes. « Eh bien, Monsieur Baskers, je vous prie d'excuser, si notre hôte ne l'a pas déjà fait, les odeurs désagréables qui affectent ce lieu. »
dit Culpepper.
« Vous avez vu le quartier, monsieur. L'eau doit être transportée à la main de Four and a Half Street. Il n'y a pas une seule pompe publique dans tout le Southwest. »
Il jeta un regard de biais à Mortrick.
« Mais ce n'est pas une excuse, puisque la civilisation à un prix. »
Mortrick n'avait pas quitté du regard Holmes, qui n'avait rien à dire à tout ça. Il s'autorisa à montrer quelques signes subtils de nervosité sans en faire trop. Monsieur Baskers aurait forcément déjà acheté des drogues illicites dans des endroits peu recommandables. Par moments, il adressait un coup d'œil nerveux à Monsieur J, comme un gentleman en appelant à l'aide un autre, mais ce dernier restait adossé au comptoir dans un silence frôlant la complète indifférence. Il aurait aussi bien pu ne pas être là. Culpepper se frotta les mains.
« Venons-en à nos affaires, monsieur. Mes camarades m'informent que vous souhaitez acheter une modeste quantité de morphine et une dose plus significative du nouveau produit pharmaceutique héroïque de monsieur Bayer. »
« Oui, » dit Holmes. Il précisa la quantité de chaque qu'il était prêt à acheter.
« Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur Baskers, que Bayer n'a pas encore mis sa miraculeuse héroïne sur le marché, ni en Europe, ni aux États-Unis. On la trouvera bientôt sur les étagères de toutes les épiceries, mais pour l'heure, elle fait l'objet de... comment dit-on ? De tests dans des hôpitaux sélectionnés, dont la clinique du docteur Reid. »
Holmes hocha la tête avec impatience. Il força son regard à rester fixé sur les trois flacons de sel d'héroïne que Culpepper tenait entre les doigts de sa main droite, comme un magicien s'apprêtant à faire un tour. Sur chaque étiquette était écrit « Fidre Bayer & Co., Elberfeld, 40 Stone Street, New York ». En réalité, Holmes nota aussi la marque et le modèle du revolver glissé dans la ceinture de Culpepper. Il lui était familier. De fabrication anglaise, c'était le modèle standard de l'armée britannique avant son remplacement par le pistolet Enfield en 1880. Il s'agissait du Beaumont Adams de calibre 442, devenu célèbre durant la guerre contre les Zoulous. C'était le premier revolver doté d'un système moderne à double action. Holmes savait que de nombreux officiers américains, notamment de cavalerie, l'avaient préféré au Colt militaire en raison de la vitesse de sa détente et d'une meilleure cadence de tir. Il se demanda vaguement si Culpepper avait servi durant cette guerre, 30 ans plus tôt, et s'il avait gardé cette arme pour des raisons sentimentales. D'après ses favoris grisonnants et l'utilisation évidente de teintures capillaires visibles sur ses cheveux dépassant du Homburg, peut-être la même substance visqueuse que mettait Holmes pour son déguisement de Sigerson, Culpepper pouvait tout à fait avoir une soixantaine d'années. Holmes devina que Monsieur J était armé lui aussi, mais très certainement d'un pistolet plus petit et plus pratique à porter en ville.
« La morphine ne vous coûtera que 20 $,
déclara Culpepper brandissant les deux petits flacons qu'il tenait dans sa main gauche. C'était deux fois plus que Holmes ne l'aurait payé à proximité d'un hôpital ou dans les quartiers noirs de la ville à une dizaine de ruelles de là. Comme s'il lisait dans ses pensées, Culpepper s'esclaffa.
« Oui, oui, vous pourriez l'acheter moins cher chez les négros, monsieur Baskers, mais Dieu sait ce que nos amis de couleur y auraient mélangé. » Quant à l'héroïne, non. Vous devez vous adresser au seul fournisseur de notre capitale. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs. »
Holmes savait que ce n'était pas vrai non plus, mais il dit « Combien pour les 3 flacons de sel ?»«
150 $,
répondit Culpepper. Même Murtrick jeta un coup d'œil surpris à son comparse. C'était 4 fois le prix du produit dans les rues de New York. Holmes fit celui qui avait du mal à encaisser le coup, même si son visage trahit le combat perdu d'avance du drogué entre le besoin absolu et l'argent.
« Oh, qu'importe !»
dit Culpepper en riant.
« On vous donne les 2 flacons de morphine avec. Vous ne trouverez pas de meilleure affaire à l'est du Mississippi, monsieur Baskers. »
Holmes déglutit et hocha la tête.
« D'accord. »
Il vit les yeux des deux hommes étinceler lorsqu'il tira 150 $ de sa volumineuse liasse de billets. Il portait plus de 800 $ sur lui, tout l'argent qu'il avait apporté de France et échangé à New York. Une fois la transaction réalisée et les flacons de morphine et d'héroïne délicatement rangés dans les différentes poches de Holmes, Culpepper demanda d'un ton désinvolte
« Aurons-nous encore le plaisir de votre clientèle, monsieur Baskers ? Je peux vous donner l'adresse d'endroit plus pratique et moins odorant où je traite mes affaires. »
C'était le moment clé. Si Holmes répondait qu'il entendait devenir un client régulier, peut-être le laisserait-il vivre. Avec un prix aussi exorbitant rien que pour l'héroïne, il récupérerait en quelques mois ses 650 $ sans recourir à la violence. Au bout d'un an ou deux, il leur aurait rapporté une petite fortune.
« Non, » répondit Holmes. « Je pars demain pour San Francisco. Je suis de Philadelphie et j'ignorais si l'héroïne était déjà consommée en Californie. Aussi ai-je pensé... »« Nous comprenons. »
Le coupa Culpepper avec un sourire. Il adressa un regard des plus brefs à Murtrick.
« Bon voyage, monsieur Baskers. »
Monsieur J ne tourna même pas la tête pour regarder Holmes quitter l'ancien atelier de forgeron.